Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, tout le monde le sait, par sa propre expérience, que ce qu'on retient le mieux dans un discours, dans un cours, dans un sermon, c'est ce qu'on entend au début et à la fin. Tout ce qui est au milieu reste souvent plus ou moins vague. Et si l'on devait choisir entre ces deux extrêmes, la partie entendue tout dernièrement a plus de chances de rester gravée dans notre esprit. Notre Seigneur, l'excellent connaisseur de notre nature, la partageant avec nous, profitait souvent de cette caractéristique de notre mémoire. Et voici comment il achève sa parabole des ouvriers de la vigne que nous venons d'entendre dans l'Évangile. Beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. C'est une vérité à la fois consolante, ce grand nombre d'appelés. Vérité consolante, mais terrible aussi, ce petit nombre d'élus. Vérité qui a besoin d'être expliquée pour éviter à la fois la présomption, je suis assuré d'arriver sans aucun problème au ciel, ou le découragement. Quoi que je fasse, je suis perdu. Nous allons voir en particulier, premièrement, que tous les hommes, tous, sans exception, sont appelés au ciel. Puis, deuxièmement, que peu sont élus. Enfin, troisièmement, que nul ne sera réprouvé que par sa faute. Voilà pour le plan en trois points. Tout d'abord, tous les hommes, sans exception, sont appelés au ciel. C'est pour le ciel et non pas pour l'enfer que le bon Dieu a créé tous les hommes. Et depuis le commencement du monde, il n'a cessé de les appeler au paradis. Ils ont été appelés de mille manières. Autrefois par les patriarches et les prophètes, tels Abraham ou Moïse, David ou Isaïe. Cela pour l'Ancien Testament. Et puis, dans le milieu des temps, par le Fils unique de Dieu en personne. Enfin, aujourd'hui, par les prédicateurs catholiques, ou plutôt ce qu'il en reste. Cet appel du bon Dieu de tous les hommes au ciel, c'est tout d'abord l'effet de sa bonté. Il est vraiment bon. C'est lui qui a mis dans notre cœur une soif de bonheur telle que rien de créé ne peut la satisfaire. Dieu ne pouvait pas faire les hommes tels qu'ils sont avec ce désir qui brûle les entrailles, désir insatiable de la béatitude, et ne pas les appeler au ciel. Il serait semblable à un père qui aurait mis au monde un enfant et qui, pouvant lui donner la nourriture, pourtant nécessaire à l'enfant, ne la lui donnerait pas. Impensable, impossible. Mais le fondement le plus profond, le plus ferme de cet appel universel au ciel, si universel qu'il englobe ensemble un catholique, un juif, un musulman, un athée, ce sont les mérites infinis du sang de notre Seigneur Jésus-Christ, sang répandu pour notre rédemption. Par le péché d'Adam, nous avons perdu notre droit à l'héritage, héritage céleste. Tout comme un enfant perd le droit d'être entretenu par son père s'il l'outrage gravement. Mais notre Seigneur a voulu nous rendre cet héritage. Et il nous l'a rendu. En réparation de l'offense qu'Adam avait faite à Dieu, Jésus-Christ lui a offert son sang et sa vie. Bien plus, la satisfaction offerte par notre Seigneur pour nous a été surabondante. Il nous a rendu la dignité de fils par son sacrifice avec tout ce qui le suit. C'est pourquoi saint Paul nous dit, « Si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Jésus-Christ. Cet héritage, c'est le ciel, dont Dieu le Père nous invite d'avoir une part comme son Fils. Dieu veut donc, conclut saint Paul, que tous les hommes soient sauvés, tous, et arrivent à la connaissance de la vérité. Connaissance ici-bas par la foi, et là-haut par la vision face à face de la Sainte Trinité. Quelle vérité consolante! Dieu nous appelle tous au ciel. Mais tout à côté de cette vérité se trouve une autre, bien terrible, à savoir qu'encore que tous les hommes sont appelés au ciel, cependant peu sont élus. Peu sont élus. Deuxième point. Notre Seigneur ne parle du petit nombre des élus que dans la parabole de l'Évangile de ce jour. Dans son sermon sur la montagne, nous l'entendons dire « Entrez par la porte étroite, car par la porte large et par le chemin spacieux, on va à la perdition, et le nombre de ceux qui y passent est grand. Qu'étroite est la porte et étroit le chemin qui mène à la vie, et qu'il y a peu de gens qui en trouvent l'entrée. » Saint Jean Chrysostome, s'adressant au peuple d'Antioche, disait « Combien pensez-vous que parmi 600 000 habitants de cette ville, il y en aura de sauvés ?» Réponse de notre saint « À peine pourra-t-il s'en trouver un cent, et encore j'en doute. » 100 sur 600 000, si on fait le calcul, 1 sur 6 000, pas beaucoup. Que dire aujourd'hui où la majorité de notre pays, de nos pays, vit sans Dieu et sans aucune moralité? Vraiment, beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Complétons ces deux vérités par une troisième, à savoir que nul ne sera réprouvé que par sa faute. Notre salut dépend tout à la fois de Dieu et de nous. Il dépend de Dieu. S'il ne nous aide par sa grâce, nous ne pourrons pas tout seuls nous sauver. Il dépend de nous, notre salut, puisque nous pourrons coopérer, travailler ensemble avec lui, ou ne pas coopérer à la grâce de Dieu. Si la grâce de la persévérance finale est accordée, disait saint Thomas d'Aquin, c'est par miséricorde, comme elle le fut au bon larron. Si elle n'est pas accordée, c'est par un juste châtiment de fautes généralement réitérées et par un juste châtiment aussi de la dernière résistance, comme il advint pour le larron impénitent qui se perdit en mourant si près du Rédempteur. Comme le dit saint Prosper, si certains sont sauvés, c'est par le don du Sauveur. Si d'autres se perdent, c'est par leur faute. Saint Bernard aurait ajouté, nous nous plaignons de ce que la grâce nous manque, mais la grâce n'aurait-elle pas plus le droit de se plaindre que nous lui manquons? Pensons au message de Notre-Dame à la rue du Bac, où la Vierge Marie se plaint qu'on ne lui demande pas de grâce, alors qu'elle serait prête à en donner. La grâce ne se donne qu'à ceux qui la demandent. Conclusion pratique. Qu'avons-nous à faire pour être du nombre des élus? Trois choses. Il faut éviter la voie large où marche le grand nombre et suivre la voie étroite. Mais comment reconnaître sur quelle voie nous sommes? Route de campagne ou l'autoroute? La voie large, autoroute à quatre voies, quatre dans un sens, se reconnaît à ce signe qu'on ne veut pas se gêner, mais vivre à son aise et sans contrainte. On pense que c'est assez de n'avoir pas de vices grossiers. et de ne faire tort à personne. On aspire nullement à être saint en laissant cet honneur à d'autres. C'est très gentil, très charitable. On ne fait que le moins possible pour le salut, choisissant dans la religion ce qui plaît et laissant le reste de côté. On se propose bien de mieux vivre, mais plus tard. Voilà, chers fidèles, la voie large n'est pas seulement la voie de ceux qu'on appelle les gros poissons, les grands pêcheurs. C'est la voie aussi de ceux qu'on peut comparer aux grenouilles, oui, qu'on plonge d'abord dans l'eau tiède, qu'on chauffe au petit feu et qui n'ont pas de force ni envie de s'échapper de la marmite qui bout déjà. La voie étroite, notre route de campagne, au contraire, se reconnaît à ce qu'on y combat ses penchants et ses passions, qu'on tient nos devoirs d'État quoi qu'il en coûte, qu'on observe les commandements, surtout les deux commandements le plus essentiel, qui sont l'amour de Dieu et la charité du prochain. Qu'on se renonce, qu'on se mortifie, qu'on porte sa croix. Charles V, roi de France, surnommé le Sage, posa un jour sur une table le sceptre et la couronne, sur une autre son épée. Puis il envoya chercher son fils et lui dit, « Choisis entre les deux, ou l'épée, ou les insignes de la royauté. » Le prince choisit celle-là et ajouta, « Par l'épée à la couronne. » De même, le chrétien ne gagnera la couronne, couronne du ciel, qu'en combattant contre soi-même, contre le monde, contre le diable. Voilà la première chose à faire pour être du nombre des élus. Ce n'est pas se tromper de voie. Voie large à éviter, voie étroite à prendre. Deuxièmement, il faut aussi travailler à son salut avec courage et confiance. Pourquoi ne pourrais-je pas faire ce qu'on fait tant d'autres? L'homme peut tout. L'homme peut tout avec une volonté ferme, volonté aidée de la grâce, bien sûr, grâce qui ne manque jamais à qui la demande. Dieu ne commande pas l'impossible. Aussi, en nous donnant ses commandements, a-t-il averti de faire ce que nous pourrions et de recourir à lui dans ce qui nous semble au-dessus de nos forces, afin qu'il nous aide. Comme disait saint Augustin, Dieu n'abandonne jamais l'homme, à moins que l'homme ne l'abandonne lui-même auparavant. Suivre la voie étroite, travailler courageusement au salut. Le troisième moyen pour être citoyen du ciel, pour être l'élu, c'est d'avoir une vraie, je répète, une vraie dévotion envers Notre-Dame. Marie est le moule, ou bien le modèle, à l'image duquel Dieu forme les élus. Marie est aussi comme un livre, livre où Dieu grave le nom des élus, comme il a formé en elle et par elle le Christ, son premier élu. Moule, livre, elle est aussi, selon Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort, l'unique trésorière. Le Très-Haut l'a faite, écrit notre saint, l'unique dispensatrice de ses grâces, pour anoblir, élever et enrichir qui elle veut, pour faire entrer qui elle veut dans la voie étroite du ciel, pour faire passer, malgré tout, qui elle veut, par la porte étroite de la vie, et pour donner le trône, le sceptre et la couronne du roi à qui elle veut. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.